Les colloques du Collège de France.
Il est 11h15, nous respectons les horaires comme vous le savez, et j'ai le plaisir d'introduire Andrew Gershow. Vous avez entendu parler de Andrew Gershow à plusieurs reprises, Gershow, je ne sais pas comment il faut dire, Gershow.
Gershow.
Gershow, ouais. Très bien. Andrew Gershow. Et à plusieurs reprises, hier et aujourd'hui, à de nombreuses reprises, nous avons donc ce matin, dans cette deuxième partie, deux acteurs de l'histoire que nous déployons devant vous, et des acteurs extrêmement proches de Pierre Boulez et Andrew, qui a donc été un des grands responsables de département à l'IRCAM, va nous parler à la fois de la collaboration avec les scientifiques et de son propre expérience à travers la réalisation d'œuvres essentielles en collaboration avec Boulez. On n'appelait pas ça un assistant ou un réalisateur musical, c'était plus que ça. On va comprendre pourquoi.
Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc, je voulais premièrement remercier chaleureusement Pierre, Michel, Menger et Nicolas Donin de m'avoir invité pour participer dans ce colloque. La musique n'a pas besoin d'un laboratoire. C'est dans ces termes, selon Pierre Boulez, que le célèbre physicien de prix Nobel Werner Heisenberg à l'Institut Max Planck a rejeté en 1970 le projet de Pierre Boulez de collaboration entre science et musique. Dans son livre « Physics and Beyond », Heisenberg regrettait que, je cite, « ces dernières années, la musique semble être prisonnière d'une phase d'expérimentation particulièrement agitée et plutôt faible, où les notions théoriques jouent un rôle plus important que la conscience assurée de progresser sur une voie déterminée. » Et plus loin, je cite à nouveau, « si dans la musique, par exemple, nous pouvons produire tous les sons que nous voulons, alors l'effort des artistes se heurterait à un vide. » On voit difficilement dans ce contexte Pierre Boulez, que Pierre Boulez aurait pu, dans ce contexte, mener son projet à l'Institut Max Planck. À travers quelques écrits qui ont précédé la mise en œuvre de l'IRCAM, Pierre Boulez a esquissé sa vision de l'évolution de la musique. D'abord, il a été motivé par la volonté de remettre en question, ou tout de moins réexaminer, certains aspects de la musique contemporaine. Par exemple, les formes de communication, la transmission écrite, la notion d'œuvre close, la forme musicale, le matériau sonore, la notation musicale, les rituels, c'est-à-dire les formats fixes des concerts, par exemple, et bien d'autres aspects. Il y a une insistance sur la nécessité d'envisager les problèmes globalement et sur le long terme. Pour lui, il y a plusieurs écueils à éviter, l'historicisme avec son lot de nostalgie, l'exotisme et la science comme excuse ou prétexte. Autour de la question de forme qui, pour lui, est l'échec le plus visible, il y a un dialogue à examiner qui concerne d'une part la relation interactive entre les musiciens et son public, et l'autre, celle de l'œuvre close et une approche qui privilégie l'instant. Au centre de son projet, il y a le travail collectif, en particulier entre musiciens et scientifiques. Tout en mettant en avant les écueils possibles, chaque domaine voulant protéger son territoire ou le dialogue difficile entre le scientifique rationnel et le musicien irrationnel, l'accent est mis sur la résolution des problèmes pratiques, la manipulation des matériaux par exemple, et tout en développant une théorie plus générale concernant le langage et communication de la musique. Autre constat et affirmation émergent dans les écrits parfois de manière récurrente. Le regret qu'un langage musical universel, ou tout au moins un style collectif, ait disparu, l'importance que tout effort collectif de recherche soit pleinement inscrit dans la vie musicale, l'impossibilité d'accepter la bande magnétique comme œuvre, avec son corollaire, la nécessité d'établir un dialogue entre les instruments et l'électronique, l'impossibilité de dissocier une solution technique et sa finalité esthétique, la nécessité de construire le cas échéant de nouveaux instruments, la nécessité d'une pédagogie réciproque, aussi le sentiment de vertige devant le territoire potentiellement vaste mais sans finalité esthétique de l'électronique. Il y avait aussi la nécessité pour les musiciens d'acquérir des connaissances pragmatiques nécessaires pour qu'une imagination puisse s'opérer, et aussi la nécessité pour les scientifiques de concevoir ce que les compositeurs attendent pour aller dans le sens de leur création. Il est étonnant de remarquer que Pierre Boulez ne propose pas une collaboration accrue entre compositeurs, alors que certains problèmes soulevés ne relèvent que de la sphère musicale. Aussi, la possibilité qu'un scientifique puisse être lui-même à l'origine d'une proposition qui pourrait impulser une démarche musicale n'est pas évoquée non plus. Dans sa première configuration, entre 1977 et 1979, l'IRCAM est surtout organisé pour une activité de recherche dans les domaines de l'acoustique instrumentale, la synthèse sonore et, le psychoacoustique. Il est intéressant de remarquer que seuls deux départements mettent l'informatique au centre de leurs préoccupations. Ainsi, le département instruments et voix fera construire une flûte spéciale pour jouer les multiphoniques et entreprendra des travaux sur l'acoustique instrumentale en utilisant des appareils analogiques. Équipé d'une acoustique variable innovante, l'espace de projection est réalisé en faisant appel à des solutions purement mécaniques. Cette première configuration est motivée par une conviction implicite, celle que l'utopie dans le projet de la musique contemporaine est indissociable de l'utopie technologique. Les années 80. La première mutation se caractérise principalement par trois phénomènes. La mise en place d'une activité de production musicale régulière, l'émergence d'un nouveau métier, assistant musical, et la généralisation de l'informatique. Il devient rapidement évident que la recherche scientifique et technique ne saurait exister indépendamment d'une activité de composition musicale. De ce constat naîtra le désir d'inviter un grand nombre de compositeurs afin non seulement de travailler sur les problématiques de recherche, mais aussi de s'inscrire dans un processus de production musicale régulière. Très vite, une saison de création musicale est mise en place en collaboration avec les ensembles et les festivals en France et à l'étranger. Entre le compositeur et le scientifique, un médiateur apparaît. Armé d'une double formation, ce traducteur saura exprimer en termes scientifiques l'essentiel d'une idée musicale et pour le compositeur l'implication musicale de telle ou telle démarche scientifique. Ce nouveau métier répondait à un certain nombre de besoins. Libérer le chercheur d'une relation trop exclusive avec un compositeur, assurer l'encadrement des compositeurs en production et enfin assurer en collaboration avec l'ingénieur du son et le compositeur, l'exécution de l'œuvre. Il sera appelé tuteur dans un premier temps, puis assistant musical, comme ça a été déjà dit. Mais les tuteurs à l'époque travaillaient beaucoup et on disait qu'ils étaient disponibles à toute heure. L'évolution de l'informatique qui s'accompagne d'une révolution de son numérique, en fait l'outil de base dans quasiment toutes les activités. Le système central d'informatique est peu à peu remplacé par des ordinateurs indépendants reliés en réseau. À ce moment, l'IRCAM prend tôt le pari non pas de l'indépendance de la composition acoustique par rapport à la composition électroacoustique, mais celui de leur fusion ou de leur interaction. Ce choix est motivé par le désir d'apprivoiser le geste musical de l'interprète et de dialogue avec ces dernières. Il impulsera la création d'un ensemble de technologies pour analyser, transformer, générer et spatialiser le son, ainsi que pour synchroniser automatiquement le jeu de l'interprète avec l'écriture électroacoustique en temps réel. À travers le temps réel, donc, l'Institut a fait le choix non du disque, avec son côté figé et sa promesse de fausse perfection, mais de l'interprétation sans cesse renouvelée de l'œuvre. La production d'œuvres combinant instruments électroniques donnera une impulsion particulière à la création de systèmes capables à la fois de traiter les sons en temps réel et de synchroniser l'interprète et la machine. Par ailleurs, les logiciels d'analyse synthèse permettront un travail musical de plus en plus fin à l'intérieur du son. Les années 90. La deuxième mutation se caractérise par trois tendances. Le renforcement de la place du compositeur, une plus grande ouverture vers l'extérieur, le public, aussi bien que de nouveaux partenaires institutionnels, et la stabilisation des pôles de recherche. L'IRCAM devient la maison des compositeurs, selon l'expression de Laurent Bell, et signe ainsi l'importance donnée à une activité de création permanente. Pour former les jeunes compositeurs au maniement des nouvelles technologies, la pédagogie met en place un cursus de composition en informatique musicale d'une durée d'un an. Le rythme des productions s'accélère et le festival Agora est créé pour susciter un temps fort dans la saison musicale. La production des disques et des publications liées aux compositeurs et la création d'une médiathèque pour promouvoir les nouveaux répertoires accompagnent cet essor. Confronté à une stagnation des subventions qui lui sont accordées, l'IRCAM crée un service dédié à la valorisation afin de susciter de nouvelles ressources financières. Profitant de l'essor de l'informatique musicale, l'Institut, désireux de rendre plus accessibles les résultats de ses recherches, conçoit le forum qui donne à ses abonnés, principalement des compositeurs et des chercheurs, un accès à ses logiciels. À ce moment, se mettra en place un processus de spécification, documentation et livraison régulier des logiciels. L'action de valorisation amènera à l'IRCAM de nouer des relations avec l'industrie et à être de plus en plus présent dans les programmes européens de recherche scientifique et technologique. Des avancées se produisent dans trois champs de recherche dans cette période, la composition assistée par ordinateur, la spatialisation et la synthèse par modèle physique. Un jour, Pierre Boulez m'a dit « Je n'ai jamais pensé que l'IRCAM se développerait à ce point ». Le recul fourni sur les deux décennies d'activité permet un constat. La collaboration entre compositeurs, scientifiques, développeurs, assistants musicaux et la population du forum a créé des technologies qui peuvent être vues comme le prolongement moderne des pratiques traditionnelles. Ainsi, la composition assistée par ordinateur étend les possibilités de la culture musicale, la synthèse et la transformation des sons élargissent la notion de lutherie, le temps réel donne une nouvelle dimension à l'interprétation et à l'exécution musicale. La spatialisation redéfinit la relation entre le public, l'interprète et l'espace dans lequel il joue. Ces prolongements résultent à la fois de l'impulsion essentielle donnée par des projets artistiques musicaux, enrichis par une ouverture à d'autres formes artistiques, et de l'action d'un réseau sans cesse élargi de collaborations internationales dans les domaines artistiques, scientifiques, technologiques, et pédagogique. Sur ce slide, comme on dit en français, à gauche les pratiques traditionnelles, composition, interprétation, lutherie et diffusion, qui ont un caractère unidirectionnel. C'est-à-dire qu'on part de la partition qui est interprétée sur un instrument et projetée dans un espace. À droite, les extensions modernes des pratiques avec une relation de plus en plus interactive et multidirectionnelle entre les pratiques. Donc, la composition assistée par ordinateur étant la composition, interaction temps réel, l'interprétation, contrôle et génération du signal, la lutherie, projection dynamique du son, la projection sonore. Autre chose à remarquer, c'est au lieu d'avoir une directionnalité de haut en bas, comme à gauche, il y a une multidirectionnalité, interaction entre les différentes pratiques à droite. Donc, par exemple, dans le domaine, dans l'interaction entre l'interaction temps réel et la composition, nous avons, par exemple, les partitions virtuelles, par exemple, chères à Philippe Manoury, par exemple. Est-ce que pour autant un langage musical universel a émergé? Force est de constater que probablement non, tout au moins dans le sens que Pierre Boulez l'entendait. La recherche musicale a révélé l'importance de la technologie considérée comme moyen de médiation et de dialogue. Les technologies incarnent explicitement ou implicitement les concepts, le vocabulaire, les pratiques et les esthétiques à degrés différents, tels qu'ils ont émergé au fil du temps. Les lacunes d'une technologie peuvent être perçues comme l'identification des éléments manquants d'un vocabulaire souhaité. Les technologies jouent ainsi le rôle de la lingua franca dans le dialogue entre les membres d'une communauté partageant des préoccupations communes. Dans ce contexte, les technologies transcendent les frontières esthétiques, favorisant ainsi parfois des échanges esthétiques. La création des nouveaux instruments n'a pas pris la direction initialement imaginée par Pierre Boulez, sans doute à cause de l'essor de la synthèse sonore qui pouvait être contrôlée en temps réel via des dispositifs dédiés ou par l'interaction avec un instrumentiste. L'interaction entre les musiciens et le public imaginée par Pierre Boulez a pris une forme différente à travers l'émergence des installations sonores interactives, par exemple. Il y a d'autres éléments qu'on pourrait signaler, mais éventuellement on aura l'opportunité de faire ça plus tard. Je vais maintenant me focaliser sur mon travail avec Pierre Boulez, ce qui, j'espère, donnera un autre éclairage sur le travail collaboratif qui était au centre du projet initial de Pierre Boulez. Je suis arrivé à l'IRCAM à l'automne 77 suite à mes études de flûte aux États-Unis et aux Pays-Bas. J'ai eu deux rencontres avec Pierre avant de devenir son collaborateur. Le premier a eu lieu au Conservatoire de Paris, où Pierre dirigeait l'ensemble intercontemporain qui jouait quelques œuvres des jeunes compositeurs du Conservatoire de Paris. Pour cet événement, j'ai remplacé une flûtiste de l'ensemble et je dois dire que j'apprenais d'être sous la direction de Pierre, puisque je me souvenais que lorsque j'étais au New England Conservatory à Boston, Pierre dirigeait la Philharmonique de New York, où on l'avait baptisé « The French Correction », tellement il avait une oreille aiguisée. Ma deuxième interaction avec Pierre était plus indirecte. On m'avait chargé de créer une bande magnétique avec des fréquences en quart de ton pour aider les chanteurs de Radio France qui allaient interpréter Visage nuptial. Suite au remaniement de l'organisation de l'IRCAM en 1980, j'ai fait partie du premier groupe de tuteurs qui devraient collaborer avec les compositeurs venant travailler à l'IRCAM. Ainsi, j'ai commencé ma collaboration avec Pierre en lui donnant des leçons de musique informatique. L'idée était qu'une fois formé, il allait pouvoir travailler tout seul. Mais cette hypothèse était de courte durée, étant donné que Pierre avait un emploi du temps tellement chargé qu'il était évident qu'il n'allait jamais pouvoir trouver le temps nécessaire pour apprendre l'informatique musicale. C'est ainsi que je suis devenu peu à peu le réalisateur de la partie électronique de ses œuvres. Au départ de notre collaboration, il était très clair que Pierre voulait s'affranchir des contraintes qu'il avait connues dans ses expériences précédentes utilisant des appareils électroniques analogiques. Son projet était de créer un continuum d'écriture musicale entre le monde traditionnel et l'électronique. La captation du geste musical de l'interprète était primordiale. En bref, il fallait que l'utilisation de l'électronique puisse lui permettre une écriture agile, précise et coordonnée avec le monde instrumental. Le premier projet entrepris avec Pierre était de revisiter Poésie pour pouvoir, en particulier la partie électronique qui était sur bande. Il fallait la rendre en temps réel avec une attention particulière à la synthèse de la voix. Nous avons expérimenté un peu avec ce qui se faisait de mieux dans le domaine de la synthèse vocale de l'époque, mais on s'est rendu compte assez vite que les technologies n'étaient pas prêtes pour un travail subtil et raffiné en temps réel sur la voix. En fait, notre pratique de la voix au quotidien nous rend, sans se rendre compte, très exigeant en ce qui concerne toute fabrication artificielle de la voix. Ce projet a donc été abandonné en faveur d'un projet totalement nouveau, Répond. Au début, notre collaboration sur Répond s'est focalisée autour de la question du vocabulaire électronique musical à développer et utiliser, c'est-à-dire les différents procédés de transformation et synthèse sonore à utiliser dans l'œuvre. Nous avons expérimenté beaucoup en utilisant la machine de traitement sonore en temps réel 4X de Peppino Di Junior, afin de construire peu à peu le vocabulaire musical électronique. Le travail a commencé avec beaucoup d'expérimentations sur les instruments à son continu, violon, clarinette, etc., mais aussi d'instruments qui avaient un caractère percussif. Rapidement, il était évident que, compte tenu des possibilités technologiques à l'époque, que les instruments percussifs traités par l'électronique donnaient les meilleurs résultats. Ainsi, le choix s'est progressivement orienté vers le piano, le xylophone glockenspiel, cymbalum, harpe et vibraphone. Un autre chantier d'expérimentation était focalisé sur la spatialisation, où là aussi, après avoir expérimenté avec jusqu'à 40 ou 50 haut-parleurs dans l'espace de projection, nous avons abouti finalement à une configuration de 6 haut-parleurs qui était la solution la plus efficace, compte tenu du fait que Pierre voulait avoir un vocabulaire de position d'haut-parleurs aisément identifiable dans l'espace à partir duquel il pourrait composer la spatialisation. La configuration actuelle de Répond a émergé à ce moment-là, avec l'ensemble au centre et les solistes repartis sur la périphérie de la salle. Cette configuration avait un aspect théâtral, mais la distance entre les solistes jouait un autre rôle, éviter que les sons d'un soliste soient captés par le soliste voisin. Logistique et esthétique, me disait souvent Pierre. À cette époque, plusieurs choses m'ont frappé. Premièrement, l'importance pour Pierre de travailler à partir d'un vocabulaire, d'éléments discontinus ou discrets au sens mathématique, pour entamer l'écriture musicale, que ce soit dans le domaine instrumental ou électronique. Deuxièmement, la notion de prolifération qui était à la base de toutes les transformations électroniques, mais pas seulement. Les méthodes de prolifération se faisaient à partir des calculs simples, des déductions, selon l'expression de Pierre Boulez, de la combinatoire et d'autres méthodes ayant un caractère algorithmique. La prolifération et les déplacements dans l'espace sont au centre de la forme musicale médiévale de Répond, où un soliste, élément unique, dialogue avec le chœur, élément multiple. Troisièmement, l'approche à l'écriture électronique comme un instrument en tant que tel. Quatrièmement, l'effet de l'expérience de Bayreuth, c'est-à-dire l'ambition d'une œuvre avec une grande forme où la construction harmonique jouait un rôle essentiel. Quand j'ai commencé à voir arriver les parties instrumentales de Répond, j'étais frappé par la simplicité d'écriture par rapport à ce que j'avais connu quand j'avais joué les œuvres comme la sonatine ou Marteau sans maître. C'était sans doute le résultat de son expérience de chef d'orchestre qui l'avait amené à revoir certains aspects de son approche à l'écriture afin de le rendre plus efficace et perceptible. J'ai appris un peu plus tard que les quarts de ton dans Visage nuptial avaient disparu suite au remaniement de l'œuvre. Comme ça a été évoqué plus haut, Pierre a cherché à créer un continuum entre le monde instrumental et l'électronique. Un bon exemple apparaît au chiffre 21 dans la partition de Répond. Dans ce schéma, donc, qui est très schématique, à gauche, il y a l'accord joué par les 6 solistes. Ensuite, les 5 solistes entrent l'un après l'autre avec les transformations électroniques en bleu correspondant à chaque soliste. Alors, si vous imaginez pour un moment que chaque doigt de votre main est un soliste, il y a un accord, puis un arpège des solistes, en quelque sorte. Ensuite, puis pour chaque doigt soliste, vous avez un accord, puis un arpège, en quelque sorte, créé par l'électronique. Dans notre collaboration, parfois nous communiquions par d'autres moyens. Par exemple, à travers un simple dessin comme celle utilisée dans la conception des wallpapers, des nappes sonores qui apparaissent dans la partie d'Itzkeabin à partir du chiffre 42. Ce dessin nous rappelle les dessins de Paul Klee. À une autre occasion, pour la création de l'électronique, dans une section vers la fin de l'œuvre, Pierre m'a simplement donné comme consigne qu'il fallait que la transformation sonore ressemble à une goutte d'huile qui tombe dans une flaque d'huile. Dialogue de l'ombre double est l'œuvre le plus simple sur le plan technique puisque la partie électronique était focalisée uniquement sur la spatialisation. Pour l'œuvre, différentes formes d'écriture de la spatialisation ont été créées, circulaires, par plan, densité, virtuose, etc. À travers cette œuvre, j'ai découvert pour la première fois ce qu'on pourrait appeler la pratique de autodescription chez Pierre. En effet, la spatialisation sert à articuler et décrire la structure musicale de la partie de la clarinette sur bande. La spatialisation jouera ce rôle dans toutes les pièces sur lesquelles j'ai travaillé avec Pierre. Contrairement à d'autres œuvres de Pierre, Dialogue a trouvé sa forme définitive rapidement. Pour l'édition de l'œuvre par Universal Edition, j'ai réalisé un premier cahier de charges afin d'expliquer comment réaliser la partie électronique de l'œuvre, mais les technologies décrites étaient trop IRCAM-centriques. C'est à ce moment que j'ai été confronté pour la première fois à la question suivante. Comment documenter une œuvre avec de l'électronique de telle façon qu'il puisse continuer à vivre malgré les évolutions incessantes des technologies? Il me semblait que la façon la plus pérenne d'éditer et de documenter une œuvre passe par une approche qu'il a décrite sur le plan technologique, en présentant ses principes de fonctionnement et non en faisant référence à une technologie spécifique existant à un moment donné. Cette approche offre un certain nombre d'avantages. Elle garantit la longévité de l'œuvre en la libérant d'une association trop restrictive avec telle ou telle technologie. Et elle met plus nettement en évidence l'intention musicale. Elle facilite le portage des œuvres. Enfin, elle rend plus aisée l'étude de l'utilisation des technologies dans la musique électroacoustique. Un autre enjeu concerne les technologies utilisées eux-mêmes. Si les technologies ne sont pas transparentes dans leur fonctionnement, c'est-à-dire qu'on puisse savoir exactement comment est-ce qu'elles fonctionnent, alors l'œuvre est condamnée sur le long terme. Autrement dit, les technologies ne doivent pas être soumises à une logique d'obsolescence programmée pour des raisons de marketing, par exemple. Aujourd'hui, il est beaucoup question de l'utilisation de l'intelligence artificielle dans la musique. Actuellement, dans les LLM, les Large Language Models, on ne sait pas comment ils prennent leurs décisions. En plus, ils ont des comportements émergents dont on ne sait pas d'où ils viennent. Mais on n'est qu'au début de l'impact de l'intelligence artificielle sur la musique électronique en temps réel. À suivre donc. Suite à une des premières exécutions de Jupiter de Philippe Manoury, Pierre avait été très impressionné par le résultat, tant musical technique, et a estimé que le moment était venu de revisiter Explosant Fixe, qui auparavant avait existé sous la forme des différentes versions dont aucune l'avait satisfait. Sur le plan technique, l'élément clé dans Jupiter était le suite de partitions qui permettait de synchroniser précisément la partie instrumentale et électronique, une utopie de longue date chère à Pierre. Nous avons commencé par travailler sur Transitoire 7 et c'est là où j'ai découvert pour la première fois la notion de ce qu'on pourrait appeler les familles d'écriture, une collection de phrases musicales partageant certaines caractéristiques musicaux en commun. Dans l'élaboration de la composition musicale, ils seront combinés avec des phrases d'une ou plus autres familles d'écriture. Même si Pierre fait référence à cette approche de l'écriture comme une approche à l'élaboration thématique, je préfère la notion de famille d'écriture, puisque dans la notion de thème variation, par exemple, il y a une relation hiérarchique entre le thème et les variations, ce qui n'existe pas dans les familles d'écriture. Ce schéma montre le déploiement des familles d'écriture dans Transitoire 7. Dans Transitoire 7, il y a 7 familles d'écriture, à ne pas confondre avec le jeu de cartes. À gauche, de haut en bas, on trouve les noms de 7 familles, A, B, C, D, E, F, G. Dans le schéma en bas, G1, G2 et G3 correspondent à la première, deuxième et troisième phrase de la famille G. Ainsi, la partition sera élaborée d'une phrase de la famille A, suivi de 5 phrases de la famille G, puis 2 phrases de la famille F, et ainsi de suite. Pour la réalisation de l'écriture électronique, il fallait donc imaginer et associer un type d'écriture électronique correspond à chaque famille d'écriture, afin de souligner l'identité de chaque famille. À un autre moment, Pierre m'a exprimé le désir de pouvoir enregistrer à la volée la partie de flûte pendant l'exécution de l'œuvre et de découper l'enregistrement en notes ou phrases afin de permettre une écriture combinatoire qui changerait à chaque exécution de l'œuvre. Cette approche était pour le moins risquée, puisque nous ne disposions pas d'outils permettant l'editing d'enregistrement en temps réel. D'où l'idée de créer plutôt une flûte synthétique basée sur des échantillons de flûte qui nous permettrait le type d'écriture que Pierre souhaitait. Mais cette démarche nous a amené aussi à regarder d'autres modes de jeu de la flûte, les tongue ram, les key clicks, les multiphonics, les pizzicati, qui in fine nous ont permis de disposer d'un instrumentarium, de sons percussifs, avec en plus la possibilité de jouer ces modes de jeu avec une virtuosité qui dépassait les capacités de jeu instrumental normal. chose qui intéressait beaucoup Pierre. Donc en plus des trois flûtes et l'ensemble de cordes bois cuivre, se rajoutait une section de percussion. Donc à partir d'un obstacle, l'œuvre a pris une autre direction. L'exposante m'a permis de découvrir un autre aspect de la démarche compositionnelle de Pierre, similaire à l'autodescription décrite ci-dessus pour dialogue, c'est-à-dire le commentaire musical. Ainsi, les deux flûtes qui accompagnent le flûte solo commentent la flûte principale et la partie instrumentale de l'ensemble commente et élargit le texte musical des trois flûtes, comme une sorte de structure pyramidale de commentaires avec la flûte solo haut et la pyramide en haut de la pyramide en quelque sorte. Sur ces diapos, on voit deux mesures au chiffre 32 du extrait de transitoire 7. La couleur bleue regroupe la famille des commentaires joués par les deux flûtes, violon, cuivre et multiphonique. La couleur rouge regroupe la famille des commentaires joués par les vents et le harmonizer. La couleur verte regroupe la famille des commentaires joués par les altos, violoncelles, contrebasses et les tongrams. Quand nous avons travaillé sur un thème 2, et alors que le vocabulaire musical électronique est déjà bien et très bien établi, notre collaboration était plutôt focalisée sur l'idée musicale. Par exemple, à un moment de notre travail, Pierre m'envoie par fax depuis Chicago la partition à travailler pour la deuxième section dans thème 2. J'ai demandé à Pierre de me fournir, en plus de la partition, l'idée musicale qui avait guidé la composition, sans quoi il serait impossible pour moi d'imaginer et créer la partie électronique. Il m'a expliqué qu'en réalité, la partition avait été inspirée par une sculpture de César, une de ses compressions. Pierre m'a montré à travers un schéma la logique de l'écriture musicale basée sur la notion de compression et expansion, déduite à partir de l'idée de l'œuvre de César. Dans la partie haute du slide, on voit trois séquences rythmiques. Les valeurs rythmiques de la deuxième ligne sont obtenues en appliquant des règles de réécriture sur les valeurs rythmiques de la première ligne. Les valeurs rythmiques de la troisième ligne sont obtenues en appliquant des règles de réécriture sur les valeurs rythmiques de la deuxième ligne. Il y a donc une expansion des valeurs d'une ligne à l'autre. Chaque valeur rythmique dans les trois séquences a une note associée. Plus bas, on voit la séquence rythmique issue de la compression des trois séquences rythmiques. Et en bas, on voit les notes et accords de la partition obtenue par compression également. Ainsi, j'ai pu imaginer la partie électronique qui servait à élargir le texte musical pour violon à travers une série de traitements électroniques dans la logique de l'idée musicale initiale. À son retour de Chicago, je lui ai présenté le résultat de mon travail et après quelques modifications, nous avons abouti à la version définitive de cette partie de l'œuvre. Ça, c'est le schéma que j'avais créé pour la création de la partie électronique. Et on voit avec les petits X la forme des répartitions de temps, par exemple, dans des délais qui sont utilisés dans cette partie. Et en haut, trois structures rythmiques marquées en rouge qui deviennent des petites séquences rythmiques qui seront jouées par le pizzicati pour souligner quelques notes spécifiques dans la partition. Si je devais me risquer à résumer les idées musicales qui m'ont frappé dans mon travail avec Pierre et qui m'ont permis d'être plus efficace dans mes propositions, je dirais ceci: dans un univers d'objets discrets et en utilisant différentes approches à la prolifération des matériaux, il déploie des familles d'écriture juxtaposées, en séquence, ou imbriquées, ou en plan, dans un jeu d'autres descriptions et autres commentaires. Cette stratégie a pour effet un aspect émergent, c'est-à-dire que l'image sonore finale n'est pas le point visé au départ, mais plutôt le point d'arrivée, lequel est le résultat de son approche compositionnelle. Pierre utilisait l'autodescription pour faciliter l'écoute de sa musique. Il attachait de plus en plus d'importance à la perceptibilité de l'écriture musicale. Ainsi, il livrait ce qu'il appelait les clés d'écoute. Mais il se gardait de les livrer toutes. Ainsi, il voulait que l'œuvre garde un élément de mystère. Comme il a dit lui-même, la musique elle-même ne fait que créer une illusion, et on a certainement besoin de cette illusion pour vivre. Répond était un work in progress. Au fur et à mesure des leçons acquises pendant l'exécution successive de l'œuvre, mais aussi à cause de l'incessante évolution des technologies, nous revisitions périodiquement certaines parties de l'œuvre, spatialisation, transformation, dans un travail en forme d'une spirale, en quelque sorte. Ainsi, certains paramètres et parties techniques étaient modifiés afin d'améliorer le résultat. Certaines choses qui, par le passé, étaient impossibles de faire le devenir avec le temps, et ainsi la partition s'est modifiée en conséquence. En général, ce travail se faisait au moment des portages de l'œuvre d'une technologie, logiciel ou ordinateur, à une autre. Pour finir, je dirais ceci. Tout au long du travail sur Répond, j'avais voulu pénétrer plus en détail dans les transformations des sons des solistes, mais les technologies n'étaient pas assez puissantes. Les transformations s'appliquaient toujours globalement au son de l'instrumentiste. Mais je souhaitais déconstruire le son des solistes afin d'effectuer un travail plus en détail, plus détaillé sur le spectre. Nous avons entamé ce travail dans ce sens en 2011, lors des dernières séances de travail que j'ai fait avec Pierre. À cette époque, il était toujours question d'une nouvelle section élaborée pour ajouter à Répond. Et pour ce travail, j'ai développé une technique appelée délai spectral qui permettait d'analyser le son de l'instrumentiste en temps réel et ensuite pouvoir appliquer des patterns de délai sur certaines fréquences de la gamme tempérée. Verticalement, chaque ligne correspond à une note de la gamme tempérée. Horizontalement, chaque point dans une ligne correspond à un délai dans le temps. Je vous ferai écouter deux exemples. Je précise que ces exemples ne sont que des proof of concept que j'ai soumis à Pierre. Nous sommes restés là, car Pierre était déjà fatigué et n'arrivait pas à travailler plus d'une heure dans le studio. Contrairement au début de Répond, où nous passions souvent plus de 12 heures d'affilée dans le studio. Je vous laisse écouter ces deux exemples, une organisée horizontalement, l'autre verticalement, qui permettront peut-être d'imaginer à ce qu'aurait ressemblé une nouvelle section de Répond. Merci beaucoup.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.